Je vous remercie, Monsieur le Président. Le communiqué de Belen a été mentionné il y a un instant par le représentant de la Colombie. Je souhaitais simplement que soit versé au procès-verbal le fait que nous appuyons cette conférence, comme l'a dit notre sous-secrétaire pour les affaires multilatérales lorsqu'il s'est exprimé lors de cette conférence par le biais de l'enregistrement vidéo. D'autre part, le cadre de cette conférence et l'effet humanitaire et social de ces armes, et je pense que nous devrions réfléchir davantage à beaucoup de ces aspects sociaux et humanitaires en ce qui concerne les Salah, en particulier tout ce qui a trait au biais algorithmique qui pourrait avoir des incidences sur les questions de genre, de handicap et tout ce qui a trait aux minorités. Mais je prends la parole ici, Monsieur le Président, pour souligner une question qui nous semble essentielle dans le cadre de nos travaux de cette semaine. Nous avons d'ores et déjà évoqué un peu cette question lors de nos allocutions d'hier et lors de l'informel. Tout d'abord, nous saisissons cette occasion pour exprimer notre satisfaction face à l'atmosphère constructive qui a présidé à nos débats tout au long de la semaine et nous attribuons cela à l'excellente manière dont vous avez géré nos travaux, notamment avec le calendrier indicatif que vous avez préparé. Nous sommes heureux que plusieurs points de convergence généraux se soient dégagés cette semaine, le plus important étant la convergence autour d'une architecture en deux piliers, interdiction et réglementation. C'est un cadre qui nous permettrait d'avancer et qui nous permettrait de parvenir à un cadre normatif sur les Salah. Cela étant dit, cette convergence émane de deux points de départ foncièrement différents. Pour certains, il faut que les interdictions et les réglementations se fondent uniquement sur le respect du DIH et soient une opérationnalisation du DIH. Nous avons d'ailleurs précisé ce que pourrait être le non-respect du DIH, ce qui a beaucoup nourri nos débats. C'est la raison pour laquelle nous saluons cette idée. Pour beaucoup de délégations, et y compris la nôtre d'ailleurs, le point de départ fondamental fait fond sur deux éléments. Tout d'abord, le respect du DIH, et je pense que les autres sont d'accord avec nous aussi là-dessus, et le contrôle humain effectif sur le recours à la force. Ce point de départ transcende le paradigme juridique et a des incidences considérables sur les fonctions autonomes, y compris l'IA et l'apprentissage machine dans le cadre de décisions de vie ou de mort. Donc nous partons de deux points de vue très différents, Monsieur le Président. Mais il y a d'ores et déjà des convergences quant à l'idée que le contrôle humain doit également être un critère pour l'interdiction. C'est ce qui est d'ailleurs présenté dans la feuille de route et dans le protocole 6 proposé par les Philippines, l'Australie, les Pakistan, ainsi qu'un document fourni par un groupe d'États européens sur les Salah. Les seules propositions qui ne font pas spécifiquement référence à ce critère sont le document de travail de la Fédération de Russie, les propositions émanant d'un groupe de coauteurs emmené par les États-Unis, mais l'élément de contrôle est peut-être déjà en sous-jacent dans la proposition qu'ils ont faite. Certaines délégations ne sont toujours pas très à l'aise à l'idée de reconnaître le contrôle humain comme un critère d'interdiction. Certaines préoccupations qu'ils ont soulevées sont valables et après avoir compris les idées derrière les fonctions autonomes, il s'agit de tirer le plus grand parti des avantages technologiques et de maîtriser certains de ces aspects. L'analogie de la balle a été utilisée pour dire que certaines armes opèrent déjà en dehors du contrôle humain, mais nous contestons cela. Nous considérons qu'il s'agit au contraire d'un contrôle effectif humain. Même si l'humain ne contrôle pas la trajectoire de la balle, il exerce un contrôle sur les effets de l'utilisation de la balle par le biais de moyens spatio-temporaires. Nous pensons que ces deux points de départ divergents ne s'annulent pas pour autant, ne s'excluent pas mutuellement pour autant. En effet, même si la reconnaissance du contrôle humain en tant que critère d'interdiction dans la phase 1 de l'approche en deux phases se fonde sur des considérations déontologiques qui vont au-delà des considérations juridiques, cela couvre également le paradigme plus étroit du respect du DIH. Après tout, le respect du DIH exige la prévisibilité, la fiabilité, la compréhensibilité et la traçabilité. Ces quatre éléments, ainsi que d'autres limites, limite pertinent constitue une opérationnalisation du contrôle humain effectif. Comme le dit le document de la Fédération de Russie, ce n'est pas forcément lié à un contrôle direct de l'objet, à savoir de l'arme, comme le démontre d'ailleurs l'analogie de la balle. Nous pensons qu'un contrôle effectif humain dépend du contexte. Il s'agit de garantir des limites au recours à la force. Plusieurs délégations, y compris la nôtre, ont dit à juste titre qu'il y avait un débat sur la nomenclature et ont décrit l'élément humain comme saillant. Notre délégation est allée au-delà de notre attachement à cette notion de contrôle humain effectif pour parvenir à des éléments qui pourraient satisfaire toutes les délégations, qui comprennent la prévisibilité, la compréhensibilité, la traçabilité, l'explicabilité notamment, et tout ce qui sort d'une chaîne de commandement et de contrôle responsable, y compris tout ce qui se passe par le biais de l'évolution et de l'apprentissage machine. Tous ces éléments existent d'ores et déjà dans plusieurs documents de travail et pourraient d'ores et déjà être utilisés pour couvrir les deux paradigmes qui s'opposent. Nous pensons qu'une telle formulation est une conclusion à laquelle nous pourrions parvenir aisément. Il ne serait pas utile de jeter des passerelles là où il serait difficile de combler les fossés. Nous pourrions, par exemple, nous n'abandonnerions pas une approche en deux étapes si le contrôle ne figure pas dans la première. Il s'agit finalement d'avoir un document fêtier qui couvre tous ces éléments et ces paramètres.